Avec notre invité François Renaud, on revient sur le mystère de la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines en se basant sur son ouvrage « Un mensonge déguisé en vérité » aux éditions Favre. Alors on a souligné l'importance du rôle joué par le commandant de bord. Au bout de 40 minutes, le vol sort des radars pour entamer un virage à 180 degrés et continue à voler pendant 7 heures sur une nouvelle trajectoire. On est donc certain que l'avion ne s'est pas crashé après 40 minutes de vol.
Tout à fait, ça on en est absolument certain, et j'irais en plus, on s'en serait très vite rendu compte. Hein. Ouais. Alors après, effectivement, bon, on aurait situé un champ de débris, après les champs de débris dérivent, et entre la localisation d'un champ de débris et le repêchage de l'épave même d'un avion, il peut s'écouler un certain temps. On l'a vu d'ailleurs dans le cas du drame d'Air France, où il a fallu beaucoup de temps entre la localisation du champ de débris et la récupération, le repêchage des boîtes noires, mais le champ de débris, il a été trouvé dans les 2-3 jours, et ça aurait été le cas aussi avec cet avion, s'il s'était crashé quelque part. Mais bon, on sait que c'est pas du tout le cas. On sait également que la manœuvre de demi-tour qui a été faite au bout de 40 minutes, elle n'a pas été motivée par un incident technique à bord, ni par une dépressurisation accidentelle de la cabine, ni non plus par un incendie à bord, comme cela avait été à un moment soutenu. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une dépressurisation d'ailleurs accidentelle de la cabine n'aurait pas mis hors service le système de transmission de données ACARS, il n'aurait pas mis hors service non plus le transpondeur, donc les contrôleurs aériens et la compagnie auraient pu continuer à suivre le cheminement de l'avion. Et si il y avait eu un incendie à bord, vous savez que on considère que lorsqu'un incendie se déclare à bord, il est nécessaire d'atterrir en gros dans les 19 minutes qui suivent la déclaration de l'incendie. Donc effectivement, on imagine mal qu'un incendie se déclare à bord et que l'avion pépère continue à suivre son chemin pendant 7 heures.
Ouais. Tout semble finalement méticuleusement préparé quand on vous lit, et puis on se dit pourquoi personne n'a réagi s'il y a eu effectivement un détournement de ce vol, l'équipage, le copilote. Et votre théorie est relativement simple, c'est que en fait ils étaient morts par hypoxie.
Tout à fait, tout à fait. Alors si vous voulez, il y a plusieurs gens qui auraient pu réagir, et alors là il y a eu un cafouillage que je relate dans mon livre qui est incompréhensible. C'est déjà effectivement, une des choses qui démontre que tout a été fait sciemment, c'est l'endroit exact où le demi-tour a été fait. Il a été fait à l'endroit exact, à la frontière entre deux FIR, donc deux zones d'information de vol et de suivi, donc entre d'une part la zone de Kuala Lumpur et la zone d'Ho Chi Minh. Donc effectivement, c'est un endroit idéal parce qu'effectivement, les gens, le trafic aérien de Kuala Lumpur se disait, bon, le vol est sorti de ma zone. Les gens d'Ho Chi Minh au Vietnam se disaient, l'avion n'est pas encore entré dans ma zone, et personne ne s'est affolé, et personne, effectivement, n'a lancé l'alerte. L'alerte a été lancée que plusieurs heures plus tard, et l'alerte de détresse a été lancée alors que l'avion aurait déjà dû avoir atterri à Pékin. Donc, ouais. Pour dire, effectivement, le cafouillage que ça a généré.
Ouais, donc ce virage, finalement, a lieu entre deux zones, et c'est vraiment la confluence de ces deux zones qui permet de sortir des radars sans que personne ne s'inquiète.
C'est-à-dire que voilà, l'avion doit passer effectivement d'une FIR à une autre, et en passant d'une FIR à une autre, donc quand quand il est encore dans la dernière zone, il doit effectivement annoncer son arrivée à la prochaine zone. Et là-dessus, on était la nuit, les gens étaient certainement en effectif réduit, n'étaient pas très attentionnés. Et Kuala Lumpur a vu l'avion disparaître, Ho Chi Minh ne le voyait pas arriver, mais personne s'est affolé. Ouais. Et c'est que beaucoup plus tard qu'on a commencé à se poser des questions. Alors après, pour revenir à votre question, quand vous parlez de réactions, oui, les réactions aussi à l'intérieur de l'avion. Bon, ben ça, effectivement, il est bien évident que même si au départ, le déroutement de l'avion pouvait apparaître normal. Vous avez des fois des avions qui sont obligés de faire demi-tour pour des problèmes techniques. Et donc, effectivement, là-dessus, au départ, on pouvait pas savoir quelles étaient les véritables intentions de ce demi-tour, mais très vite, effectivement, les gens auraient pu s'en rendre compte et il était nécessaire de pouvoir neutraliser, parce que bon, dans la cabine, il y avait les passagers qui, eux, peut-être se doutaient de rien. En plus, il était très tard. Il était
oui, c'était un vol de nuit, bien sûr. Ouais.
Voilà, exactement. Donc, beaucoup de gens devaient déjà dormir, mais il y avait quand même aussi tout l'équipage qui, lui, est un équipage rodé au vol de routine et qui a dû se rendre compte au bout d'un moment qu'il se déroulait des événements à bord qui n'étaient pas normaux. Donc, effectivement, il a fallu trouver une manière de neutraliser tous ces gens-là. Et effectivement, la manière, bon, même si elle semble horrible, mais la seule manière qu'il pouvait utiliser sans avoir à quitter, je dirais, son siège, et voilà, était d'organiser une dépressurisation, non pas cette fois accidentelle, mais volontaire de la cabine, après s'être lui-même protégé en mettant son masque à oxygène. Et c'est ce qui s'est passé. Et là-dessus, où il y a les anomalies qui se sont produites dans les liaisons SATCOM, démontrent effectivement qu'il y a eu à un moment une dépressurisation volontaire de la cabine qui a été effectuée.